Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Je vous raconte une histoire de médecin légiste que je tire du livre du docteur Michel Sapané, médecin légiste à Poitiers, autre chronique d'un médecin légiste chez Pocket. Il y a question d'un simplet qui, dans son village, fait la chasse aux mobilettes à coups de batte de baseball. Et il en meurt. Qui l'a tué? C'est le médecin légiste qui va permettre de résoudre l'énigme. Je l'ai écrite avec Nicolas Loupien, la réalisation est de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Grobert est le simplet du village. Il ne supporte pas le bruit des mobilettes, ça lui vrille les oreilles. Surtout le soir quand les jeunes s'amusent à lancer leurs engins pétaradants en haut de la côte sur la départementale qui sert de rue principale au village. Et lui, il habite pile au milieu. Alors il a décidé de les chasser. Il se poste devant sa maison, un peu en retrait. On ne peut pas le voir, il n'y a pas de lampadaire. Et quand le bruit est presque à sa hauteur, il bondit avec une batte de baseball à la main et il la balance de toutes ses forces dans le vide. Hein ? Raté ! Et il entend la mobylette qui va s'essouffler dans la remontée. Et il lui arrive aussi de faire ça en plein jour. Et les mômes, sur leurs engins, ça les amuse évidemment. Ça pimente leur jeu. À l'approche de chez lui, ils se couchent sur le guidon et ils font juste un petit écart. Ça suffit. Le pauvre Grobert avec son manche en bois est bien trop lent pour eux. Surtout qu'il opère rarement à jeun. Et la précision du geste d'un mec bourré étant ce qu'elle est, en général, quand il abat son arme, les petits gars sont déjà loin. Et goguenard, il entend leur rire. Plusieurs fois, les gens du village sont venus lui dire « Mais c'est pas bien ça, Grobert, ce que tu fais. Faut pas faire ça. » Mais il s'en fout. Il continue. Un jour, il en aura un. Je l'aurai. Je l'aurai. Et puis, un soir de novembre, un voisin découvre le pauvre Grobert, couché dans le fossé et inconscient. Il appelle les pompiers. C'est bon, il respire encore. On l'évacue vers l'hôpital. Allez, on le met sur le brancard. Une, deux, trois. Le diagnostic tombe à l'arrivée aux urgences. Coma profond et tension très faible. Il faut le transporter en neurochir au CHU de Poitiers, hein. Mais le temps de préparer l'ambulance et le pauvre Grobert décède. Et donc c'est finalement dans un fourgon mortuaire qu'il arrive au CHU, direction les frigos de la morgue. Le parquet a ordonné une autopsie. C'est le patron, le docteur Michel Sapané, qui s'y colle. Quand il entre dans la salle d'autopsie, les gendarmes chargés de l'enquête sont déjà là. Et oui, ça vous l'ignorez peut-être, mais les enquêteurs, qu'ils soient policiers ou gendarmes, assistent toujours à l'autopsie. Il y en a qui se mettent du coton dans le nez avec une goutte de menthe pour l'odeur. Et d'autres, surtout au début, qui tournent de l'œil au milieu du démontage. Mais ils n'ont pas le choix. Ils doivent rester jusqu'au bout, c'est le métier. Et leur premier boulot, c'est de briefer le légiste. Bon, docteur, on a là un individu qui faisait la chasse aux mobilettes au devant chez lui. C'est un homme un peu diminué intellectuellement. Et donc on est sur deux hypothèses, soit il a été percuté par une voiture, hein? Soit un gars en mobylette lui a réglé son compte. Nous, on penche plutôt pour la dernière hypothèse, mais bon, à vous de nous dire. Les gendarmes lui remettent le certificat de décès rédigé par les urgences, vraisemblablement un traumatisme crânien et une hémorragie méningée. Bon, très bien. Vous l'amenez au scanner, corps entier. Le corps revient du scanner dans son grand sac plastique. Verdict, pas de fracture aucune. Et pas non plus d'hémorragie cérébrale. C'est étonnant ça. Mais une grande quantité de liquide autour des intestins. Le corps est déballé de son sac, il est posé sur la table d'autopsie, il est déshabillé. Le docteur Sapané le balaie du regard, centimètre par centimètre. Rien. Pas d'hématome. Pas de traces de coups. Juste un petit frottement sur le front. Et un autre un peu plus marqué sous le sternum. Une trace de frottement d'environ 8 cm avec un départ très net à gauche, avant de filer vers la droite. Ça ressemble pas du tout à un choc avec une voiture, ça. Et pas non plus à un passage à tabac. Et après, ma foi, le docteur Sapané se lance d'une manière assez classique. Il pratique une grande incision au scalpel du pubis jusqu'au menton. Et il a à peine ouvert la paroi abdominale qu'un flot de sang jaillit, au moins 1,5 litre d'hémoglobine, aromatisé d'alcool. Et oui, le docteur Sapané est du genre qui regarde et qui sent. Eh bien maintenant, on sait de quoi il est mort, le pauvre Robert. C'est une hémorragie abdominale, hein. Colossale. Il y a deux organes qui provoquent ce genre d'hémorragie. Le foie et la rate. À cause de la trace de frottement sous le sternum, Sapané pense tout de suite à un éclatement du foie. Et pour vérifier, il faut commencer par vider l'abdomen de tout son sang. Et là, faut être patient, hein. Parce qu'avant, il y avait des suceuses, comme on dit, avec un tuyau de gros diamètre. Elles étaient capables d'avaler 5 litres de sang en 30 secondes. Mais maintenant, les chirurgiens, ceux qui s'occupent des vivants, les ont fait remplacer par des petites machines avec de tout petits tuyaux qui se bougent tout le temps avec les caillots. Ça prend 3 plombes. Sapané leur tordrait bien le cou, mais c'est comme ça. Quand le pompage est terminé, le docteur pratique un grand lavage à l'eau claire. Et puis, il se penche sur le foie. Intact. Mauvaise pioche. Alors c'est la rate, peut-être. Il glisse ses mains sous les intestins, il les soulève, il regarde. La rate est entière. Mince alors. Et pourtant ce type a saigné. Il va donc falloir inspecter tous les vaisseaux sanguins, tous ceux qui irriguent les organes du corps. Il doit y avoir une plaie quelque part, ou une rupture. Bon ben, va falloir que je pratique un grand ligament roupetto-amédalien. Ça, je vous le dis tout de suite, roupetto amygdalien, ça n'est pas une expression qui sort d'un manuel de médecine légale. C'est une expression personnelle du docteur Sapané. Très imagée mais efficace. Il s'agit de tout retirer d'un bloc, tout le mou, tous les organes connectés les uns aux autres. Des roupettes, donc du sexe, jusqu'aux amygdales. Et surtout, sans sectionner les vaisseaux qui relient les organes. Sinon, impossible de trouver la fuite. Alors il commence par découper les côtes au sécateur. Et puis il part de la langue, il la crochette, il la fait ressortir sous le menton. Et ensuite il part derrière l'œsophage, au ras des vertèbres. Et il tire doucement et tout l'intérieur du cou se décolle. Et ensuite il soulève les organes de la poitrine, le cœur, les poumons. Vous me donnez un coup de main? Tenez-moi ça. Il a des assistants, heureusement, parce que c'est lourd tout ça. Il sectionne le diaphragme, il passe derrière les reins, et là, il faut faire attention aux intestins, parce que ils n'ont qu'une seule idée, c'est de s'échapper, façon poulpe. Faut pas traîner, hein. C'est vraiment lourd. Il glisse ses mains jusqu'aux dernières vertèbres lombaires, il décolle la vessie, puis l'anus, et là, un petit coup de scalpel. Et ça y est, tout le bloc est libre. Il le dépose sur un brancard, sur sa face ventrale. Le docteur Sapané ouvre ensuite la boîte crânienne. Il en sort le cerveau, indemne. Pas de trauma crânien. Bon, eh bien maintenant, il va se concentrer sur son tas de viscères. Les carotides du cou sont intactes. La partie thoracique de l'aorte aussi. Il ouvre l'artère, il la remonte. Je trouve rien, hein. Il n'y a pas de plaie artérielle. Et donc il repart du haut, et cette fois, il suit le réseau des veines, jusqu'à la veine cave. Et il avance. Et là, il arrive aux veines sus-hépatiques, qui viennent du foie. Et puis, la veine pancréatique. Stop ! Stop, j'ai trouvé ! La veine pancréatique est totalement déchirée. Et le pancréas coupé en deux. Bon ben maintenant, je sais de quoi il est mort, votre gars. Déchirure du pancréas. Ça colle avec la trace relevée sur le plexus. Il a fallu y aller, hein. Il a fallu un choc d'une très grande violence. À votre avis, est-ce que ça collerait avec un guidon de mobilette? Ouais. Ouais, c'est fort possible. Dans la foulée, les gendarmes lancent une opération de contrôle de tous les deux roues du village. Ça ne donne rien. Et puis dans les environs, ils apprennent qu'un jeune a fait réparer le guidon faussé de son cyclo. Alors ils vont le voir. Ben, un soir, je traversais le bourg avec mon scout. Et puis j'ai heurté quelque chose avec le côté droit de mon guidon. Il faisait complètement noir, quoi, j'ai pas vu ce que c'était. Ça m'a déstabilisé, je suis parti en zigzag, comme ça, sur la route. J'ai bien failli m'étaler, hein. Heureusement, j'ai réussi à me rattraper. Le quelque chose qu'il a heurté, c'était Grobert. Il était plus bourré que d'habitude. Quand il est sorti de son recoin, il a trop avancé sur la route, il n'a pas eu le temps de lever sa batte, le choc l'a envoyé au fossé. C'était un accident. Et le procureur peut refermer le dossier. Grâce au docteur Sapané. Alors Michel Sapané, dans cette première histoire, ce qui saute aux yeux, c'est qu'au moment où vous arrivez, les gendarmes ont déjà un scénario. En vérité, ils pensent à un meurtre provoqué par les jeunes du village à l'encontre de ce gars qui les provoque régulièrement. Donc il y a un scénario qui s'impose. C'est presque toujours le cas, ça ?
Non, pas à ce point-là, on va dire. On a souvent des éléments d'orientation d'enquête. C'est rare qu'ils partent directement sur une hypothèse qui soit démentie après. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on n'écoute pas les enquêteurs, on se prive de tout un tas d'informations.
Alors, on peut pas leur dire, taisez-vous, je veux démarrer vierge, quoi.
Ah ben non, surtout pas, parce que c'était un petit peu le souhait d'un ancien procureur général de la Cour d'appel de Poitiers qui, à une époque, me disait, vous savez, docteur, mon rêve, c'est on vous donne le corps, on vous donne aucun renseignement et vous trouvez les causes et les circonstances de la mort. Et après 10 secondes de réflexion, je lui ai dit, mais monsieur le procureur, c'est une très bonne idée, et quand vous irez voir votre médecin, vous vous allongerez sur le divan d'examen, et surtout, vous lui direz bien, je ne vais rien vous dire. Et donc vous allez voir après comment vous allez être soigné. C'est un petit peu la même chose.
Donc les hypothèses, ça rend souvent service quand même.
Tout à fait, mais il faut garder des contre-pieds possibles, c'est-à-dire se dire, on vous dit c'est une agression, ça peut être autre chose, un accident, un suicide, ou même éventuellement l'inverse.
J'ai évidemment des tas de questions à vous poser qui sont, pour démarrer cette série, puisqu'on va se retrouver toute cette semaine avec des histoires de médecine légale, qui sont assez générales sur le métier. Est-ce qu'après la mort de quelqu'un, lorsqu'on ne sait pas de toute évidence de quoi il est mort, l'autopsie est systématique?
Alors, pas du tout. Le fait de ne pas connaître les causes de la mort n'impose pas une autopsie. Simplement, le médecin qui va constater le décès devrait, normalement, cocher une petite case qui s'appelle « obstacle médico-légal », ce qui va déclencher tout un tas d'interventions, et en particulier celle de la justice.
C'est-à-dire, c'est le médecin qui constate la mort qui dit « je pense que s'il ne dit pas « je pense que ça mérite une autopsie », 99% du temps, obsèque,
oui.
Et c'est fini.
Oui, c'est fini, et de temps en temps, on va enterrer la victime d'un meurtre.
Ouais.
Donc il y a un premier filtre, c'est le rôle du médecin qui constate le décès. Alors lui va beaucoup travailler avec les connaissances qu'il a du patient. C'est-à-dire qu'il y a deux circonstances en gros. Soit c'est quelqu'un qu'il connaît parfaitement, et donc il est au courant des pathologies. auquel cas, si c'est un ancien cardiaque qui a eu plein d'infarctus, qui est rendu en insuffisance cardiaque majeure et qui va décéder à domicile, ça ne va pas être une mort surprenante. Il n'y a aucune raison de mettre un obstacle médico-légal, sauf s'il a des traces de violence. Parce qu'on peut avoir un infarctus ancien et être victime d'une agression, ça n'empêche pas. Donc il y a un tri ici. Alors après, il y a des circonstances où, de toute évidence, il faut quand même aller plus loin. Il y a la mort brutale de l'adulte jeune en bonne santé. Alors jeune, ça, à une époque, c'était jusqu'à 50 ans. Maintenant, on considère que quelqu'un qui n'a pas de pathologie particulière qui puisse expliquer le décès, quand il a une mort subite jusqu'à 65, 70, voire plus, années, ça devient potentiellement suspect.
Donc quelqu'un, par exemple, qui n'aurait pas de pathologie cardiaque repérée par son médecin, qui meurt subitement dans la rue comme ça, on va ordonner une expertise médico-légale.
Oui, on devrait ordonner une expertise
médico-légale. Pourquoi devrait ? On le fait
parce
pas.
Qu'on le fait pas toujours. Alors il y a des recommandations européennes et il y a, ça a été rappelé par le Conseil de l'ordre des médecins en France. Ça date de 1999 et il y a tout un tas de circonstances où on doit déclencher une enquête.
L'ouverture, c'est-à-dire l'autopsie complète, l'ouverture du corps est systématique.
Alors pas du tout. Et là, il faut différencier deux choses. Tout dépend des moyens qu'on va engager. Parce que dans beaucoup de cas, on pourrait se dispenser de l'ouverture, comme ce que font certaines écoles en Suisse, où ils ont une démarche de diagnostic qui fait appel à l'imagerie.
Oui, voilà, le scanner.
Médicale. Alors, pas que le scanner, il y a le scanner, il y a les artériographies post-mortem, c'est-à-dire injecter des produits de contraste dans les vaisseaux, et il y a l'IRM, plus un examen externe, attentif. Avec cet ensemble-là, on peut considérer qu'on pourrait se dispenser d'ouvrir au minimum 80, voire 90% des corps.
Mais en pratique ?
Eh ben, en pratique, en France, alors d'abord, il y a un problème d'accessibilité à ces outils. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un scanner post-mortem, encore moins une IRM. Quand il vous faut 3 mois de délai pour avoir une IRM du genou, il est évident qu'avoir une IRM corps entier, bon, nous, on les a en 24 heures, donc oui. On a beaucoup de chance.
Ou en pratique, sur la masse des corps que vous recevez à expertiser, quelle est la part que vous ouvrez ?
En 2019, pour 520 dossiers, on a fait 300 autopsies. Et le reste, ce sont des examens externes associés à des examens complémentaires.
Quelle est la part des affaires criminelles dans tout ça ? Parce qu'évidemment, c'est ça qui vous rend célèbre. Mais en pratique, sur les 520, là, combien sont des affaires criminelles ?
Il n'y en a pas beaucoup. Ça fait, alors, ça dépend des années. Il y a les bonnes et les mauvaises années. Ça dépend de quel côté on se place. Mais on va dire entre 20 et 50, c'est-à-dire entre 4 et 10 % maximum. Et le reste, ce sont des suicides, des accidents, c'est quand même des morts violentes, hein. Des accidents du travail dans lesquels il y a des responsabilités d'employeurs qui peuvent être mises en cause. Et puis, il y a beaucoup de morts naturelles, mais qui étaient au départ inexpliquées. On a aussi des morts toxiques, des overdoses, des accidents de médicaments, voilà.
Ce métier-là, on le fait parce qu'il y a le sujet criminel derrière ? Par exemple, dans votre cas, c'est parce qu'il y a la matière criminelle que c'est un métier intéressant, ou c'est aussi un métier intéressant dans sa phase non spectaculaire, qui est la phase non criminelle ?
Alors là, vous avez deux questions différentes. Il y en a une, c'est sur la motivation personnelle de chacun. Là, c'est toute une histoire. Faudrait interroger chaque légiste. C'est dans les histoires personnelles de chacun. Il y a des fois, c'est des pures coïncidences. Il y a d'autres fois, c'est tout petit déjà, je voulais être médecin légiste. Bon, j'ai des gens comme ça dans mon équipe. Moi, personnellement, c'est la part d'énigme. C'est-à-dire, chaque cas est une énigme, plus ou moins complexe.
Voilà. Et chaque patient aussi d'un médecin qui soigne les vivants est une énigme.
Tout à fait. Oui, ça procède exactement de la même démarche. Le médecin généraliste qui est confronté à une pathologie qu'il a un peu de mal à comprendre est dans une même démarche. On a le même fond de connaissances, les mêmes bases et les mêmes types de raisonnement.
Alors vous êtes dans les affaires criminelles l'un des techniciens experts qui interviennent. Il y en a d'autres, il y a les balisticiens, il y a les accidentologues, il y a tout un tas de gens, et il y a les psychiatres. Alors, il y a des sciences plus ou moins molles là-dedans. La psychiatrie est une science très molle, ils se trompent beaucoup, les médecins psychiatres. Quelle est la part de justesse que vous donnez à votre métier? Jusqu'à quel point la médecine légale est une science dure?
C'est une science dans laquelle le rôle de l'expert, c'est de dire « je sais, et voilà pourquoi ce que je vous affirme est une vérité scientifique. »
Ou « je sais pas ».
« Je sais que ce n'est pas telle ou telle hypothèse que vous développez, et voilà pourquoi, et j'ai les arguments scientifiques. » Ce qui fait un bon expert, c'est celui qui est capable de dire « en l'état actuel des connaissances de la science, je ne suis pas capable de vous répondre avec les moyens que j'ai utilisé. » C'est là où on a un petit problème, c'est que ces fameux moyens, on n'est pas les ordonnateurs des moyens. On obéit à des donneurs d'ordre. Le donneur d'ordre, c'est essentiellement le procureur de la République, qui va donc décider des examens complémentaires qui vont être faits, parce que ça a un coût supplémentaire. Et donc, lui va raisonner...
C'est pas vous qui dites, il faut faire travailler un entomologiste, par exemple, qui va travailler sur les colonies d'insectes du cadavre. C'est pas vous qui ordonnez ça. Il faut que vous passiez par le procureur pour qu'il signe
un procès. Alors, pour l'entomologie, c'est un peu particulier parce que vous avez les coordinateurs de criminalistique qui sont ce qu'on appelle les co-crimes, qui sont des gens spécialisés dans l'aide technique aux magistrats,
oui.
Qui vont les conseiller. Et donc ça, l'entomologie, c'est un peu particulier, surtout que c'est prélevé tout de suite sur le terrain, c'est tout de suite confié aux autorités.
Mais les analyses biologiques, par exemple, contenu,
voilà.
des viscères,
voilà.
Le procureur peut très bien dire « on s'en passera ».
Oui, oui, il peut dire « on s'en passera ».
Parce que ça coûte combien, par exemple?
Ça dépend. Ça peut aller très cher.
Ouais.
Ça peut être très cher.
Et c'est l'État qui paye, bien sûr.
Bien sûr. Mais le problème, c'est que normalement, un médecin est tenu à une obligation de moyens. Vous savez qu'on n'est pas tenu à une obligation de résultats. Ça tombe bien, parce qu'en médecine légale, on aurait du mal à les faire revivre. Mais pour ce qui est des moyens, on doit prendre les moyens de nos diagnostics. Et pour un médecin légiste, prendre les moyens de son diagnostic, c'est avoir un scanner, avoir une IRM, avoir l'examen microscopique des organes et avoir la toxicologie. Ça, c'est ce qu'on devrait pouvoir avoir.
Après, systématiquement.
Oui,
et qu'on n'a pas.
Non, pas systématiquement.
Quand on a besoin.
Mais quand on a besoin.
Je veux dire, quand
vous arrivez aux urgences et que vous avez mal au crâne, on ne va pas vous faire un scanner du petit bassin.
Bon.
Donc là, le problème, c'est que le donneur d'ordre qui prescrit les examens n'est pas un scientifique.
Alors, il faut le convaincre.
Il faut le convaincre, oui, mais lui, il a d'autres considérations. Et il y a des fois, on se retrouve avec des affaires pour lesquelles on reste sur notre faim parce que on peut pas apporter des réponses aux familles, parce que derrière, il y a les familles aussi. Alors, il y a des fois, il y a eu une autopsie, on n'a pas les examens complémentaires, on a éliminé une cause criminelle. Voilà, donc tout est clair pour la justice, mais comme il n'y a plus de cause criminelle, on ne va pas donner de réponse médicale aux familles. Conclusion, vous avez pu faire un trouble du rythme sur une pathologie rare, transmissible génétiquement. Ça demande une génétique particulière. Il y a quelques centres qui font ça en France. Eh ben, on ne l'aura pas parce que ça n'a pas d'intérêt pour la justice.
Mais ça a un intérêt pour le fiston qui a hérité de cette pathologie, peut-être.
Voilà. Et donc là, on a un gros problème.
Mais ce n'est pas le sens de ce que vous faites.
Non.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.